Nous savons que tu donnes ton esprit à ceux qui t'obéissent. Et nous voulons te demander des cœurs obéissants pour que ton esprit soit libre en nous, n'étant pas contristé, qu'il puisse opérer ce que ton cœur désire voir dans chacune de nos vies, dans chacune de nos relations, dans nos maisons, nos foyers, dans nos communautés et dans notre témoignage, dans notre travail professionnel. Nous te demandons de faire de nous tes témoins, où que nous soyons, et qu'en vérité, on puisse nous reconnaître pour avoir été et pour être avec Jésus. C'est notre prière ce matin, en te suppliant de révéler ton livre à notre foi, de le rendre vivant pour chacune de nos âmes, que nous puissions nous y voir en notre laideur et dans ta beauté. Sois notre sauveur. Amen. Nous voici arrivés à ce jeudi matin 6 juillet et c'est notre avant-dernière étude de ce premier camp familial. Vous serez mes témoins. Aujourd'hui, nous avons la fin du chapitre 11. C'est-à-dire depuis le verset 19, qui nous montre d'abord la fondation de l'église d'Antioche, puis le chapitre 12, qui nous parle de l'exécution de Jacques, le premier des apôtres martyrs, l'arrestation de Pierre et sa merveilleuse délivrance, et qui se termine par la mort du roi Hérode. Je vous fais remarquer qu'il ne sera plus parlé de Pierre dans les Actes à partir de la fin de ce chapitre 12. C'est les missions de l'apôtre Paul qui vont commencer à partir du chapitre 13. Et c'est pourquoi j'ai pensé que demain, nous chercherons à étudier les chapitres 13 et 14 pour que dans cette première phase de notre camp, ceux qui doivent nous quitter aient quand même vraiment quelques détails sur le ministère de ce Saul de Tarse. Nous avons 37 versets à étudier ce matin. Quel titre avez-vous donné au chapitre 10e? Cornet, hein, c'est bien ça. Et pensez au titre que l'on pourra donner au chapitre 11e. Je pense que hier soir, en écoutant la prédication de Pierre devant Corneille et ses amis, vous aurez remarqué quatre caractères de l'œuvre du Saint-Esprit dont Jésus a parlé dans les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean. Nous avons vu que Pierre, dans ses actes, s'inspirait des faits qu'il avait vécus avec le Seigneur. Il avait bien compris la leçon. Jésus leur avait dit souvent, « Je ne fais rien que je n'ai vu faire par mon Père. » Et Pierre s'inspire pour agir de ce qu'il a vu faire par Jésus. Mais aussi, il s'inspire de ses paroles. Et dans son discours chez Corneille, eh bien, on peut relever 4 points. Il enseignait ce que Jésus leur avait annoncé. Il leur avait dit, quand ils recevraient le Consolateur, le Saint-Esprit leur révélerait les choses nouvelles qui résulteraient de l'œuvre du Christ à la croix. Il y a des choses que Jésus n'avait pas pu leur dire. Il le souligne dans les entretiens de la chambre haute. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Et il leur dit que quand le Consolateur serait venu, eh bien, c'est lui qui leur révélerait ses paroles. De sorte que le Seigneur a continué de parler aux apôtres après son élévation dans la gloire par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que Pierre parlait devant Corneille. Un deuxième point, il est dit que le Saint-Esprit leur avait dit Jésus, leur rappellerait tout ce qu'il avait dit, ce que les disciples avaient peu à peu compris. Nous avons cela au chapitre 14 de Jean, verset 26. Puis qu'il les conduirait dans toute la vérité qui pouvait être maintenant révélée. Et enfin, qu'il rendrait témoignage d'un Christ glorifié. Et c'est bien la ligne qu'a suivi l'apôtre dans son discours. Pour lui, il y a eu des choses nouvelles qu'il a apprises. Et il le dit au chapitre 10, au verset 34e. Il dit, « Je me rends compte, en vérité, que Dieu n'est pas partial, et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. » Cette fois maintenant, il a compris cette vérité. Jésus est le Seigneur de tous les hommes, même des athées, il est leur Seigneur. Ils ne le savent pas, mais il est pourtant leur Seigneur. Alors, dès que Pierre eut prononcé les paroles qui révélaient à Corneille et aux siens ce qui manquait à leur foi pour faire d'eux des chrétiens, l'Esprit est tombé sur eux. Dieu n'attendait que ce moment pour sceller de son Esprit ses croyants, et les introduire dans les privilèges du christianisme par le baptême d'un seul esprit pour être un seul corps. Désormais, depuis le chapitre 10, il n'y a plus ni juif ni grec, mais comme on le lit dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, il n'y a plus qu'un seul corps, formé de tous ceux qui se convertissent du judaïsme et de ceux qui sont arrachés aux paganes. Alors les frères qui sont venus avec Pierre ont donc été témoins de ces choses, et c'est vraiment la parole que Jésus avait dite à la Samaritaine qui s'est réalisée. Ceux qui ont connu le don de Dieu et qui ont cru, bien, cette eau qu'ils ont bu est devenue une fontaine jaillissant en vie éternelle, comme il était dit dans Jean chapitre 4. Et au chapitre 7 de Jean, le Seigneur avait annoncé que ceux qui croiraient, des fleuves d'eau vive couleraient de leur sein. Les bénédictions que reçoit le croyant dans la puissance du Saint-Esprit, on peut dire que ces bénédictions prennent deux directions. Elles remontent à Dieu d'un côté, puis elles descendent, elles se répandent de l'autre vers les hommes. Mais tout cela vient de Dieu. Alors au chapitre 8 des Actes, nous avons vu que les Samaritains avaient reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisés et qu'ils l'avaient reçu par l'imposition des mains des apôtres. Il fallait qu'ils soient liés à Jérusalem. Tandis qu'à Césarée, Dieu sachant avec quelle difficulté les frères juifs recevraient les païens dans la profession chrétienne, eh bien Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour montrer aux Juifs que lui les admettait sur le même pied qu'eux en vertu de la foi au Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas baptisés. Et ça, il faut bien s'en souvenir. Dieu est glorieusement libre dans son action. Ils n'étaient pas baptisés. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui confère le baptême de l'Esprit. Le baptême d'eau est essentiellement une obéissance qui nous permet de confesser le Seigneur d'une façon publique. Alors, voyant que ces croyants avaient reçu le Saint-Esprit comme eux, Pierre dit à ses compagnons qui sont témoins de ce qui se passe, qui entendent ces gens parler en langue, comme à Jérusalem, Pierre demande si quelqu'un pourrait leur refuser le baptême. Vous voyez, il n'emploie pas son autorité apostolique pour imposer le baptême, mais il demande à ces gens qui sont témoins de ces choses, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ces personnes qui ont reçu le baptême de l'Esprit. Donc, il propose la chose afin que tous soient exercés sur ce sujet et que tous se sentent responsables. C'est ça l'esprit chrétien. Vous voyez, il y a autre chose aussi, ce n'est pas Pierre qui a baptisé. Il a demandé qu'on les baptise. Donc, il n'y a pas de cléricalisme. C'est absolument clair. Il n'y a pas un clergé qui peut imposer les mains pour donner le Saint-Esprit, comme cela se dit dans l'Église devenue, hélas, romaine. À un tel point que on refuse la table des communautés évangéliques ou simplement réformées, parce que ceux qui célèbrent la scène n'ont pas été consacrés par les mains d'un évêque. De sorte que qu'un catholique s'approche de la table d'un milieu évangélique, il pèche contre sa religion. C'est interdit. Même dans l'œcuménisme, il n'y a pas d'intercommunion. Et surtout avec Jean-Paul II. Et il faut toujours bien avertir, quand il y a des catholiques, que selon les lois de leur Église, ils n'ont pas le droit de s'approcher de la table et de communier dans un milieu où il n'y aurait qu'un pasteur, même attitré, ayant fait toutes les études nécessaires, il n'a pas été consacré par un évêque. De sorte que n'est pas valable et qu'il pèche. Donc vous voyez qu'on est loin de cette unité vers laquelle on prétend marcher. Nous aimons souvent à souligner que la vraie unité, parce qu'il y a une unité chrétienne, j'aime à la présenter sous la forme d'un triangle. Au sommet, vous avez le Seigneur, puis à la base, il y a tel milieu, il y a tel groupe, et puis il y aurait tel autre groupe. La fausse unité, le faux œcuménisme, c'est de vouloir se rapprocher en faisant des concessions les uns aux autres. De la droite, je m'en vais vers la gauche et on se rapproche en faisant des concessions. Mais on est toujours aussi loin du sommet. Ça, c'est la fausse unité qui finit par Babylone. Tandis que si on enseigne aux âmes que ce qui compte, c'est de vivre davantage avec le Seigneur et de se rapprocher de la personne du Seigneur. Alors, de cette droite, tu montes vers le sommet, et puis de la gauche, tu fais la même chose. Alors, plus tu te rapproches du sommet, plus vous vous rapprochez les uns des autres. C'est cela la vraie unité. La vraie marche vers l'unité, c'est de mettre le Christ au centre. C'est que ce soit sa personne qui nous attire, et je ne peux pas être proche de Jésus et éloigné de mes frères. C'est une impossibilité. On ne peut pas être proche de Jésus et loin de ceux qui sont proches de Jésus. Et cela, c'est une grâce qui nous est donnée de rechercher la personne du Seigneur. Et là, nous nous trouvons de plus en plus unis dans nos cœurs. Au chapitre 11, nous avons vu les réactions alors de l'Église de Jérusalem au sujet de Pierre. Et nous avons constaté un troisième trouble. Le premier a été provoqué par les mensonges d'Ananias, sa dissimulation, son désir de paraître ce qu'il n'est pas. Et le deuxième trouble, nous l'avons appelé les murmures qui viennent se manifester parce qu'il y a des négligences et maintenant des reproches qui sont faits même à l'apôtre Pierre et qui viennent d'un manque de connaissances et d'informations exactes. Alors finalement, Pierre a montré aux frères de Jérusalem qu'eux-mêmes n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient des Juifs, mais parce qu'ils avaient cru. Si à Jérusalem on a reçu le Saint-Esprit, c'est à cause de la foi. C'est pas parce qu'ils étaient des Juifs. Et Pierre, quand il a prêché au chapitre 2, au verset 38, il leur a dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, et dans la confession du Seigneur Jésus, vous recevrez le Saint-Esprit. » Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient des Juifs, mais parce qu'ils ont cru. Alors, il en a été de même à Césarée parmi les païens. Au verset 17 du chapitre 11, Pierre fait remarquer que Corneille et les siens venez de croire au Seigneur Jésus, ce qui les a placés sur le même pied devant Dieu. Alors maintenant que les gentils possédaient le salut, ce salut dont l'ange avait parlé à Corneille, lorsqu'il disait « Envoie à Joppé, fais venir Pierre, qui te dira les choses par lesquels tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et j'insiste bien pour que vous écoutiez. et que vous demandiez au Seigneur de bien vous montrer ce que c'est que le salut. Envoie à Joppé, fais venir Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Jusque-là, Corneille, qui était un croyant, il croyait et il avait la crainte de Dieu, il était comme les saints de l'Ancien Testament, il avait la vie de Dieu. Et s'il était mort, avant d'avoir entendu Pierre, eh bien nous sommes convaincus qu'il était sauvé. Mais ce n'était pas de ce salut dont il avait besoin. Et je vous en supplie, comprenez que le salut, ce n'est pas ce qui vous garantit le ciel au moment de votre mort. Vous avez besoin du plein salut, du si grand salut. Évangélisez simplement et donnez une espèce d'assurance de salut aux gens, leur disant, ben voilà, maintenant vous êtes sauvés, vous n'avez pas besoin des œuvres, c'est le salut par la foi, ce n'est pas le grand salut de Dieu. Et pensez que tous ceux qui n'ont pas eu les connaissances que nous avons, les connaissances bibliques et l'assurance du salut, sont tous éperdus, vous êtes dans une fatale erreur. Et vous aurez de grandes surprises dans le ciel, parce qu'il y en a plusieurs qui auront confessé que Jésus est leur sauveur et qui ne seront pas au ciel, parce que leur cœur n'était pas donné au Seigneur. Ils ont compris intellectuellement quelques vérités, et puis ce que nous constatons, c'est que leur vie n'a pas changé. Qu'est-ce que ça change de se convertir? Qu'est-ce que ça change de prendre simplement une décision, puis maintenant j'ai mon salut. Et on ne voit pas la vie transformée. On ne voit pas Dieu possédant ces hommes et ces femmes qui se disent sauvés depuis je ne sais combien d'années. Le salut, c'est quelque chose de quotidien. Et c'est cela le si grand salut. Ce qui m'avait heurté en 1960 lors de ma première visite au Québec, c'est d'entendre des personnes me dire « Il faut être content que les Québécois aient compris le petit salut. » Ce n'est pas le petit salut. Le petit salut n'existe pas. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de cœur. Je ne connais dans l'Écriture que le si grand salut de Dieu, et non pas seulement être sauvé de l'enfer. Oh, je suis sauvé, j'irai pas en enfer, mais toi, tu iras en enfer. Ou cette personne qui m'a dit, quand même, depuis 200 ans que mes ancêtres sont au Québec, je suis le premier sauvé. Donc, tous ces ancêtres seraient nécessairement perdus. Nous sommes dans une grande erreur, parce qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas eu le privilège de connaître les vérités que nous connaissons, mais qui avaient la crainte de Dieu. Josaphat nous a parlé de ses parents et du repos que Dieu lui avait donné au sujet du salut de leurs parents. Comme aussi quand j'étais à Jérusalem et que je devais faire une conférence devant une multitude de juifs et qui sont heurtés en pensant au four crématoire, au Shoah et à l'Holocauste. Eh bien, je suis convaincu qu'une multitude de gens qui ont passé par les crématoires, par les chambres à gaz, ont été sauvés. Je ne vois pas 6 millions de Juifs exterminés. Donc, après les fours crématoires d'Hitler, ils allaient au feu éternel. Vous faites de Dieu un monstre. Plus qu'Hitler, je ne vous dis pas que tous sont sauvés, mais je sais Et je les ai vus, ces chambres à gaz, dans les pays occidentaux. Ces gens qu'on mettait nus, et qui venaient de différents pays, et qui tout à coup, alors que leur bourreau regardait par certaines lunettes ce qui se passait à l'intérieur, qu'est-ce que l'on voyait? Et qu'est-ce que l'on entendait? Face à la mort, ces Juifs, qui avaient quand même une certaine connaissance de l'Ancien Testament, mais qui ne connaissaient rien d'autre, ils commençaient à invoquer l'Éternel en récitant le schéma Israël. Les dernières paroles de ces gens, c'était « Écoute Israël, il y a un seul Éternel ». Est-ce qu'il y a un Éternel dans l'Ancien Testament et un Éternel dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Écriture? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je pense bien que Dieu a sauvé, je ne dis pas tous parce qu'il faut la foi individuelle, mais c'est le même Seigneur. Et quand on invoque le nom du Seigneur, eh bien, le Seigneur nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est pourquoi j'aime quand même bien la version qui, dans le Nouveau Testament, ou dans l'Ancien Testament, au lieu de mettre l'Éternel, met le Seigneur. Parce que il n'y a pas un Seigneur dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau. C'est le même Seigneur. Alors, faisons confiance à Dieu. Nous ne sommes pas nous-mêmes les juges et ce n'est pas à nous de décider qui sera sauvé. La question, c'est de nous en remettre entre les mains du Seigneur. Mais, comme je l'ai déjà cité, dans ces journées, notre responsabilité vis-à-vis des élus, parce que Dieu a ses élus, c'est de tout souffrir pour eux, afin qu'ils arrivent à la connaissance du salut. Le salut doit leur être annoncé pour qu'ils puissent jouir de ce salut qui les prend du monde, qui les arrache à ce milieu dans lequel ils vivaient pour faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Car une fois qu'on est au Seigneur, eh bien, nous avons à lui donner toute notre vie, quel que soit notre travail. Nous sommes tous des frères et des sœurs plein temps. Car quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, vous avez à l'accomplir au nom du Seigneur. Tout ce que vous faites, c'est au nom du Seigneur. Et il y a des choses qu'un chrétien ne fera plus dans son métier manuel ou dans une profession intellectuelle ou commerciale. Le christianisme doit être manifesté dans la vie de tous. Et c'est là le combat. Et c'est là la lutte. C'est pas simplement dire « je suis sauvé », mais « je vais vivre en sauvé » car nous en avons reçu par le Saint-Esprit les possibilités. Mais il faut marcher dans un sentier étroit. Ce grand salut dont avait besoin Corneille. C'est la certitude d'une délivrance complète du jugement. Jugement que le Seigneur a subi à la croix, à la place des coupables, et qui a satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu. Ça, Corneille ne le savait pas. Il avait la crainte de Dieu, mais il n'avait pas cette assurance de son salut. Et le Seigneur lui apporte cette merveilleuse nouvelle à cet homme qui craignait Dieu. Ce salut, c'est la possession de la vie éternelle, d'une vie qui a triomphé de la mort, mais c'est ça être sauvé. C'est vivre de cette vie qui a triomphé de la mort. C'est pas d'avoir écrit son nom dans un petit papier que maintenant, depuis aujourd'hui, je l'accepte. Parce que ça peut être mécanique. Et alors, comme ça ne tient pas, la doctrine de la perte du salut prend des proportions incroyables. Il faut bien expliquer tout ce déchet, alors vous auriez perdu votre salut. De sorte que il n'y a pas d'élection. C'est vous qui avez choisi, qui avez décidé de votre sort. Or, nous croyons à la prédestination. Mais cette prédestination, puisqu'on a posé la question, il faut bien le comprendre, la prédestination n'a pas à vous troubler et à vous préoccuper. La prédestination, c'est un secret de famille, si j'ose dire ainsi. On apprend qu'on était prédestiné une fois qu'on a accepté le Seigneur Jésus. Alors, vous apprenez que c'est lui qui vous avait choisi quand? Dès avant la fondation du monde. Quand vous étiez dans les entrailles de votre mère et que vous étiez là en formation, eh bien, le Seigneur présidait à cette formation. Et nous voyons que Paul avait été choisi dès les entrailles de sa mère, et même Jérémie de la même manière, avant de sortir de son sein. Le Seigneur avait un plan. De sorte que, quand on vous dit, bien voilà, bon, ou quand on entend ça, moi, si je suis prédestiné, je sais que je serai quand même sauvé. C'est une des tactiques du diable qui emploie la prédestination pour que vous risquiez dans votre incrédulité en disant, ben, si je dois être sauvé, je le serai quand même. Si je dois être perdu, je le serai aussi. Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, il annonce la bonne nouvelle à tous. Alors, à nous de l'accueillir. Je n'ai jamais rencontré une personne qui pourrait me dire qu'elle est allée au Seigneur et que le Seigneur l'a repoussée. C'est nous qui ne voulons pas de lui. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas, mais c'est que nous ne voulons pas. Alors, allons au Seigneur qui nous fait grâce, qui nous invite. Son sang est la propitiation, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Il y a donc salut pour tous. Il y a salut par grâce. Nous ne croyons pas à une prédestination à la perdition. Nous croyons à cette prédestination au salut. Mais le Seigneur ne nous violente pas. Il veut nous laisser la liberté et c'est en acceptant le Seigneur, en obéissant à la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alors, devenus enfants de Dieu, on apprend que ce Père éternel nous avait prédestinés dès avant la fondation du monde. De sorte que la prédestination nous apporte une assurance que vraiment le Seigneur nous a aimés, que nous lui appartenons depuis toujours et qu'il nous a déjà suivis avant notre conversion. Le Seigneur vous a préservé de bien des choses avant votre conversion. Tout à coup, quand vous prenez conscience de ce que Dieu a fait pour vous, de ce grand salut, vous vous dites, mais il me cherchait depuis longtemps et il m'a aimé. Le Seigneur ne nous a pas aimés depuis que nous avons répondu et que nous avons donné notre oui. Il nous aimait avant, comprenez-vous. Et alors, maintenant que je sais cela, alors je n'ai pas à prêcher la prédestination, mais je peux exposer aux âmes qu'elles étaient prédestinées pour le salut, puisque le Seigneur a touché aussi leur cœur. Dieu est Dieu, et il a tous les droits. Alors nous nous courbons et nous adorons. Mais, comme l'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment un si grand salut. Et ça n'a rien à faire avec un petit salut qui serait une adhésion intellectuelle à des vérités chrétiennes. Je lis ce verset au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Car si la parole annoncée par des anges entra en vigueur, et si toute transgression et toute désobéissance reçurent une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui commença à être annoncé par le Seigneur, puis fut confirmé pour nous par ceux qui l'avaient entendu, donc par ses témoins, et il fut appuyé aussi du témoignage de Dieu par des signes et des prodiges, des miracles de toutes sortes et par les dons de l'Esprit Saint répartis selon sa volonté. Demandons au Seigneur de nous faire découvrir ce qu'est ce si grand salut. Ainsi Corneille est entré dans la jouissance d'un tel salut, lui et les siens, et ils pouvaient dorénavant magnifier Dieu. Ne faisons pas des clubs de sauvés, parce que nos communautés peuvent très vite devenir des clubs de sauvés, au lieu d'être des assemblées réellement composées d'hommes et de femmes qui marchent avec le Seigneur et qui désire avoir une marche conforme à leur position céleste. Parce que, étant sauvés, ils sont devenus des hommes nouveaux dans lesquels tout est créé et tout vient de Dieu. C'est une nouvelle création, c'est pas une nouvelle créature, on est toujours la même créature, mais l'Esprit de Dieu fait en nous son travail et c'est une nouvelle création. Alors, ce grand salut, nous le voyons de Jérusalem et à cause des persécutions, verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs d'abord. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche et qui s'adressèrent aussi aux Grecs. Et ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient bénis? C'était que la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? C'est un demi-tour, c'est un changement de pensée, c'est un changement d'orientation. Et le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et alors ils envoient une délégation, c'est-à-dire Barnabas, le fils de consolation qui a vendu sa propriété et qui est disponible, ils l'envoient jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, frères et sœurs, quand il y a la grâce de Dieu, on la voit. La grâce de Dieu, ce n'est pas une théorie. La grâce de Dieu est manifeste dans la vie du croyant. Et on admire cette grâce de Dieu. Et on doit voir aussi la grâce de Dieu dans nos communautés, dans nos églises. Sinon, nous sommes sur la voie du club. Et il faut faire très attention de ne pas devenir un club. Il faut que chacun soit conscient du si grand salut qui est le nôtre. Et quand on va voir ce qui se passe à Antioche, Barnabas, en qui on peut avoir confiance, il a vu la grâce de Dieu. Et il s'en est réjoui. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché à quoi? Au Seigneur. Parce que le salut, c'est qui? C'est le Seigneur. Mes yeux ont vu ton salut, disait Siméon. Le salut, c'est pas quelque chose. Le salut, c'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui n'est plus extérieur à nous, mais qui nous est devenu intérieur. Nous sommes habités. Vous êtes habités par un autre qui a été d'abord enfant, adolescent, et qui grandit. Et c'est ce que l'apôtre prêchait, l'apôtre Paul, comme nous le verrons plus loin. Alors Barnabas a vu la grâce de Dieu. Alors il les exhorte à demeurer attachés au Seigneur, à une personne, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Il laissait l'Esprit agir en lui. Et une foule assez nombreuse se joignit à quoi? À une communauté d'abord. On se joint à qui? Au Seigneur. Comprenez le bien. On se joint au Seigneur. On ne fait pas de la propagande pour sa maison, pour sa boîte à nous, en concurrence avec d'autres boîtes dites chrétiennes. On cherche à ce que les âmes se joignent réellement à une personne au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Vous voyez, c'est la deuxième fois qu'il intervient pour Paul. Il l'a trouvé à Jérusalem pour le présenter aux apôtres, parce qu'on le craignait. Il a eu confiance, lui. Puis maintenant, qu'il a été pendant tout un temps en formation à Tarse, il va le chercher, parce qu'il voit qu'il y a un travail. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est extraordinaire. Qui est-ce qui a donné ce nom aux disciples? Les païens. C'est les païens. Ils ont vu le changement. C'était des gens nouveaux, avant ils étaient juifs ou païens, puis maintenant ils étaient chrétiens, disciples du Christ. C'était un mot plutôt humiliant, disciples du Christ, de ce Christos, de ce crucifié. Eh bien, c'est le monde qui les a nommés chrétiens. C'est là que nous avons l'origine du mot chrétien. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été nommés chrétiens. Il n'y a que trois fois le mot chrétien dans le Nouveau Testament. Ici, nous voyons l'origine du mot, puis l'apôtre Paul, quand il prêche devant Agrippa et Festus, il a un élan tellement fort pour ce roi Agrippa, qui est pourtant un grand pécheur. Il vit avec Bérénice, qui est sa sœur. Ils vivent dans l'inceste. Eh bien, Paul ne s'occupe pas de la question de l'inceste, mais il parle à Agrippa. Et quand Festus lui dit, « Mais Saul, Paul, tu es fou. Je ne suis pas fou, très excellent Festus. Je sais qu'Agrippa sait ces choses. » Alors, à ce moment-là,
Agrippa est touché. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et on le devient parfois par une nouvelle naissance. C'est une vie nouvelle. Alors, la troisième expression où nous trouvons ce mot chrétien, c'est dans Pierre, au chapitre 4, au verset 15, où il est dit que nous n'avons pas à souffrir comme meurtriers et voleurs, ou comme des gens qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui, mais que si nous souffrons comme chrétiens, nous n'avons pas à en avoir honte, mais au contraire, nous devons glorifier Dieu en cela. C'est quelque chose de merveilleux. Mais nous sommes avertis que si nous sommes authentiquement chrétiens, qu'est-ce qu'il y aura? Des souffrances. Il y aura des souffrances si nous vivons en authentique chrétien. Donc vous ne devez pas être étonné que vous ayez des luttes et des difficultés. Si vous voulez être chrétien, eh bien, vous crierez à Dieu qu'il vous donne la puissance d'avoir un véritable témoignage. Parce que tout est fait pour détruire notre témoignage. Surtout dans un monde où l'on ne parle plus que de festivités, alors qu'on est sur un volcan et qu'on est dans les dernières heures du temps de la grâce. Maintenant, tout est festivité, festival, et il faut toujours, soi-disant, se réjouir. Oui, moi aussi je me réjouis, mais je veux me réjouir dans le Seigneur. Et nous avons un combat à mener. Eh bien, la manifestation du christianisme dans cette communauté d'Antioche, vous l'avez au verset 27, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. » Vous voyez, maintenant, il y a des liens entre Jérusalem et Antioche, entre la ville juive et la ville païenne. « L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. » Elle arriva, en effet, sous Claude, l'empereur romain. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Quand l'Esprit de Dieu opère, c'est des tout jeunes convertis, hein, eh bien ils ont déjà compris que si à Jérusalem, il y a des persécutions, à Jérusalem, il y aura peut-être la famine avant qu'elle ne soit chez eux. Ils n'ont pas encore la famine, mais ils pensent qu'ils doivent soutenir les frères dans la peine. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul ce qu'ils avaient récolté certainement dans une collecte. Alors, il y a cette entraide entre les frères et qui ont reçu de Jérusalem des grandes bénédictions, eh bien, ils veulent aussi pourvoir aux besoins de leurs frères. Donc, plus de racisme. Ils sont frères les uns pour les autres. Alors, nous passons maintenant au chapitre 12, qui ne nous arrêtera pas longtemps parce qu'il est assez facile, mais vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Vous voyez que la persécution n'est pas arrêtée par la mort d'Étienne, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est le premier apôtre martyr. Pourquoi est-ce qu'il a permis que Jacques soit repris? Cela, ce sont les voies de Dieu, et nous n'avons qu'à courber la tête. Mais comme nous l'avons dit, aller auprès du Seigneur, c'est être ravi de devant un danger. Le juste périt, les hommes de bonté sont recueillis sans que personne comprenne que le juste est recueilli de devant le mal. Ceux qui ont été repris, eh bien, ils sont dans le repos et dans la paix en attendant la résurrection. Mais ce qui compte pour nous, c'est justement de bien compter nos jours, parce que ils peuvent se terminer très rapidement. Alors, depuis notre conversion, nous voudrions que nos jours aient servi à la gloire de Dieu. Hérode fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez que ces Hérodes étaient vraiment très durs, très cruels, très méchants. Hérode le Grand a massacré les enfants de Bethléem pour atteindre Jésus. Hérode Antipas, au temps de Pilate, alors qu'il ne s'aimait pas, il s'est fait ami de Pilate sur le dos de Jésus. Et il a donné lui aussi sa voix et Jésus a été crucifié. Et puis, maintenant, nous avons Hérode, Agrippa, et qui, lui, a le même caractère que ses ancêtres, et il fait mourir Jacques, pour plaire au peuple, comme l'autre Hérode s'était fait ami de Pilate, maintenant celui-là, il veut se faire ami du peuple. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Vous voyez, on veut se rendre agréable. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Ça fait combien? 16 soldats pour garder Pierre, le pêcheur. Chacune avec, donc 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il veut respecter aussi la Pâque des Juifs. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Mais il y avait l'Église qui ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Caris. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Vous voyez, 2 soldats entourent Pierre, il est lié de chaînes. Donc, impossibilité de se sauver et de bouger même. Et il y avait des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Combien de fois avez-vous trouvé le mot ange? Combien y a-t-il eu déjà d'anges depuis que nous avons commencé l'étude? Il y en a eu 2 sur la montagne des Oliviers. Il y en a eu 1 pour ouvrir la prison de Pierre et de Jean, qui ont été libérés pour pouvoir prêcher à Jérusalem. Il y en a eu 1 qui est venu dire à Philippe de quitter Samarie pour aller sur le chemin de Jérusalem à Gaza, qui était désert. Puis, vous pouvez continuer. Il y en a eu 1 qui vient parler à Corneille qu'il doit aller chercher Pierre, faire venir Pierre pour lui parler. Et ici, en voilà 1 qui vient pour libérer Pierre. Et alors, ce que je trouve de merveilleux, c'est que Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? C'est la veille de sa mort. Il dormait. C'est beau. Il était en paix. Il n'était pas en souci. Il dormait tranquillement. Il dormait. Et alors, je trouve la politesse des anges. C'est tellement merveilleux. Il le frappe sur le côté et lui dit, lève-toi promptement. Mais si Pierre raisonne, il dit, mais je ne peux pas me lever, c'est les chaînes. Quand est-ce que les chaînes tomberont? Quand il se lèvera. Mais il faut d'abord se lever. Les chaînes sont là. Il est lié de chaînes quand il est assis et tant qu'il dort. Et pour que les chaînes tombent, il faut se lever. Eh bien, c'est la même chose spirituellement. Vous avez peut-être des chaînes Levez-vous, dit le Seigneur, les chaînes tomberont. Et alors, une fois que les chaînes sont tombées, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, une vraie maman, hein, qui veut habiller son enfant. Mets ta ceinture et tes... Mais pourquoi ces sandales? Ça veut dire qu'on sort, hein. On va faire une promenade, hors de la prison. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, ça c'est admirable, enveloppe-toi de ton manteau. Il connaît la météo. Alors il sait qu'il fait frais dehors. Mais ton manteau, n'oublie pas ton manteau. Il pourrait prendre froid. Les soins du Seigneur, ils sont merveilleux. Les oiseaux n'ont pas de soucis. Et nous, pourquoi est-ce qu'on est toujours en souci? Si on connaissait Dieu comme les oiseaux connaissent Dieu, ne vous mettez pas en souci. On est peu évangélique, au fond. On est toujours plein de soucis, de tracas. Au lieu de nous en remettre au Seigneur, mais pour toute chose, pour le détail, ne dites pas, oh, mais moi, je demande à Dieu de m'aider dans les grandes choses. Combien de grandes choses avons-nous dans notre vie? On n'a pas tellement de grandes choses. Alors Dieu n'intervient presque pas dans nos vies. C'est dans le quotidien. Qu'est-ce qui vous empoisonne? C'est le quotidien. Faites entrer le Seigneur dans le quotidien. Dites-lui tout devant votre casserole, vous, mes sœurs, quand vous cuisez vos haricots, et que c'est embêtant peut-être, et puis que vous avez un petit problème. Demandez au Seigneur. Il a fait la cuisine, lui aussi. Il a préparé les poissons pour les disciples, et c'était le ressuscité. Il est capable de vous aider. Je me souviens quand ma mère était malade et qu'on était 6-7 à la maison. Eh bien, j'ai dû faire les repas souvent. Puis je me disais, mais quelle quantité de sel est-ce qu'il faut que je mette? J'étais encore qu'un gamin. Et le Seigneur m'aidait, hein, pour que ça ne soit pas trop salé. Il nous dirige. On peut lui parler de ces questions-là. Faites entrer le Seigneur en toutes choses. Puisque les anges sont aussi à nos soins. Pierre sortit et le suivit. Mais il ne savait pas ce qui se faisait. Si ce qui se faisait par l'ange était réel, il s'imaginait avoir quoi? Une vision. Et lorsqu'il eut passé la première garde, parce que il aurait pu se dire, mais les gardes, ils vont se réveiller et ils vont intervenir. Non. Ils passent la première garde, puis la seconde. Puis ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville. Et la porte de fer, elle était fermée. À quoi ça sert d'aller jusqu'à la porte quand elle est fermée? C'est une fois devant la porte que la porte va s'ouvrir. Hein. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas ouverte tout de suite, de loin? Ça aurait fait des courants d'air, ça aurait réveillé tout le monde. N'est-ce pas? La porte ne s'ouvrira que quand ils seront devant. Alors, il faut même marcher vers une porte qui est fermée. Elle s'ouvrira au moment où il le faudra. Et ils sortirent ensemble dans la rue. Et aussitôt, l'ange quitta Pierre. Il ne s'impose pas. Ils sont là seulement pour nous aider. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, voyez, il avait lu les proverbes. Avant de prendre une décision, il faut la réflexion. Il réfléchit. Et il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean. Pour qu'on puisse savoir un peu qui elle est, il est dit mère de Jean surnommée Marc. Et nous apprenons par d'autres portions de l'Écriture que ce Marc était le cousin ou le neveu de Barnabas. Et que cette Marie avait une maison et que c'est là qu'un groupe de frères et de sœurs se réunissaient à Jérusalem pour prier pour la délivrance de Pierre. Beaucoup de personnes étaient réunies là et priaient. Alors, quand on prie, c'est là qu'on peut raconter l'histoire de la petite fille dont j'ai parlé hier soir. on prie, nos réunions de prière, pourquoi est-ce qu'on a si peu de résultats dans nos réunions de prière? C'est parce que dans nos réunions de prière, on fait de l'enseignement. Une prière, elle n'enseigne pas. Une prière expose des besoins précis. On parle à Dieu de besoins précis, avec force. Mais si on fait le tour du monde, alors on ne voit rien. Mais prier pour des choses précises. Il y a une jeune femme qui m'a téléphoné la semaine passée, et puis qui a très à cœur la conversion de certaines personnes de sa famille. Et quand ils ont des réunions de prière dans leur communauté, elle a à cœur d'en parler, puisqu'elle sait qu'il y a quand même de la fraternité parmi eux. Et le pasteur lui a dit, vous n'allez pas continuer de prier pour votre famille. Votre famille n'est pas plus qu'une autre. Alors elle était complètement désolée. Si même dans la réunion de prière, parce qu'elle a mentionné des membres de sa famille, on lui dit de ne plus le faire, c'est quand même terrible. Et on est conducteur spirituel. Et évangélique, mieux que ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une réunion de prière? C'est une réunion où on expose les besoins. Il y a des cultes qui sont des réunions d'adoration où l'on dit notre amour au Seigneur. Mais là, c'est une réunion de prière où on a quelqu'un est en danger, alors on supplie, on est unis et on crie au Seigneur. Les uns et les autres, on demande la délivrance et on y croit. Alors tout à coup, hein, Pierre est là, ils sont exaucés, il a été délivré, l'ange est intervenu. Puis il y a là une petite servante qui s'appelle Rod, et vous voyez, hein, quand vous ne pouvez être qu'une servante, mais si vous avez eu une attitude qui glorifie le Seigneur, votre nom sera prononcé en 1989. La petite servante est nommée parce qu'elle a cru. Quand Pierre frappe derrière la porte, elle s'approche pour écouter. Mais vous direz, pourquoi pas pour ouvrir? Parce qu'ils sont persécutés. Ils sont dans un temps de persécution. C'est peut-être la police qui vient pour les arrêter. Alors il faut surveiller qui peut être derrière la porte. Bien sûr, on prie pour Pierre, mais comment se peut-il que Pierre soit déjà là? La prière est exaucée. Alors elle reconnaît la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle court annoncer que Pierre était devant la porte. Au fond, c'est comme si elle venait leur dire « rendez grâce, ça y est !» Nous sommes exaucés, hein. Alors, la tournure de la réunion de prière change en action de grâce, en action de louange. Et c'est du vrai. Quelque chose s'est passé et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Puis alors, ces grands apôtres, ces grands croyants, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ça vous fait penser à quoi, ça? C'est folle. Qu'est-ce qu'on a dit quand les femmes sont venues du sépulcre, puis qu'on dit que Jésus était ressuscité? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Elles sont folles. Hein? Vous êtes des dérangés. C'est toujours la même chose. Hein? C'est bien notre cœur naturel. On demande à Dieu des choses, mais on n'y croit pas. Alors, elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. On est tellement spirituel. Oh, c'est son ange. Il est déjà exécuté. Pendant que Pierre continuait à frapper, alors ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Mais donc nous ne croyons pas quand nous prions. Voilà pourquoi nous sommes si peu exaucés. Il faut un renouveau dans nos réunions de prière. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Vous voyez, Pierre raconte des faits. Chez Corneille, il a raconté ce qui s'était passé. Ici, il leur raconte ce que le Seigneur a fait. Comment le Seigneur l'avait tiré de prison? Et il dit, annoncez-le à Jacques. C'est pas le Jacques qui a été tué, c'est un autre Jacques qui était à Jérusalem, et on pense que c'était le frère du Seigneur et au frère. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et dès ce moment-là, vous n'entendez plus parler de Pierre dans les Actes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un ministère, mais c'est le dernier texte au sujet de Pierre dans les Actes. Quand il fit jour, alors les soldats, dans une grande agitation, se demandent ce qui est arrivé, puisque Pierre n'est plus là. C'est quelque chose de terrible pour eux. Pour quelle raison? Parce que c'est vie pour vie, ils avaient la garde de cette vie, et Hérode, qui est un sanguinaire, n'ayant pas trouvé Pierre, eh bien, ayant interrogé les gars, il donne alors de les mener au supplice. Des exécutions, il y en aura quand même. Mais ce ne sera pas Pierre. Ce sera l'exécution de ses gardiens. C'est ça la justice des hommes. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Voilà Hérode, et qui a terminé son séjour à Jérusalem, et il va à Césarée maritime, la ville construite par son grand-père, Hérode le Grand. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria, « Voix d'un dieu et non pas d'un homme. » Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et Hérode, qui était juif, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû refuser. Parce qu'il savait que c'était de l'idolâtrie. Mais il s'est laissé encenser, lui qui n'était qu'un homme, il s'est fait encenser comme un dieu. Au même instant, un ange, vous voyez, il y a un ange au début, puis un ange à la fin. Un ange qui délivre, puis un ange qui frappe. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Alors souvenons-nous bien de cela. Non point à nous, non point à nous donne gloire, mais à Dieu seul. Et il expira rongé de ver. Il voulait faire mourir Pierre, Pierre est libéré, et lui qui voulait faire mourir, c'est lui qui meurt. Et de quelle mort? Une mort absolument misérable. L'historien Joseph raconte toute une histoire au sujet de cette mort. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus malgré toute cette hostilité, et le nombre des disciples augmentait. C'est merveilleux, hein? Rien ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, alors là on revient en arrière, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc, qui était le fils de qui? De Marie, de cette Marie de Jérusalem. Et on sait que Jean, surnommé Marc, avait été converti par Pierre, qui lui-même avait donc ses entrées dans cette maison, et il l'appelle son fils, hein, Marc, mon fils. Alors, nous savons que ce Marc était aussi parent de Barnabas. Et il était jeune et il a été le compagnon des apôtres. Voilà. Je termine. Vous avez lu le but de nos camps, où je disais ceci. Découvrir ensemble, en étudiant le livre des Actes des apôtres, comment les premiers chrétiens suivirent les ordres du Seigneur. Quelle fut dans la vie des disciples
la manifestation du si grand salut accompli pour eux et leur famille par Jésus-Christ. Le but d'une vraie conversion serait-il simplement d'éviter une perdition éternelle? Ou serait-il davantage de devenir dans la main de Dieu les instruments de son cœur pour l'accomplissement joyeux de sa volonté dans notre vie quotidienne, pour que le monde croie à l'évangile que nous devons prêcher? Il a besoin de voir des familles, des parents, des enfants en qui habite l'amour agapé de Dieu et non une simple affection, un amour philia, une amitié qui vient du cœur naturel de l'homme. Si nous nous réclamons de Jésus-Christ, notre raison de vivre n'est-elle pas de servir Dieu en aimant nos enfants, nos parents et notre prochain comme nous-mêmes? Dieu notre Père, nous voulons te demander que l'étude de ce livre des Actes nous révèle réellement ce que tu attends de nous comme témoignage, et que réellement devant le sacrifice que tu as accompli pour nous sauver, que nous puissions te suivre et être réellement les membres de ton corps, vivant de la vie de la terre et agissant par la terre. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.